Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Longtemps, on a parlé du monde ouvrier ou de la classe ouvrière, selon les points de vue, comme une fierté, un corps représenté ou une catégorie sociologique. Pour des raisons plus ou moins profondes, structurelles ou sociolinguistiques que je ne vais pas détailler, le terme s'emploie moins aujourd'hui, il est presque devenu stigmatisant. On se dira plutôt agent, salarié, intérimaire, ou bien on se désigne par sa tâche, cariste, machiniste, soudeur, chauffeur, mais rarement ouvrier. Martin Thibault, un sociologue du travail cité par Le Monde, raconte que lorsqu'il a interrogé la RATP pour une enquête sur cette question, on lui a répondu qu'il n'y avait pas d'ouvriers dans l'entreprise. Chez Amazon, ceux qui font des travaux pénibles, répétitifs, peu qualifiés, très encadrés et mal payés, s'appellent même des « associates », poursuit l'article. Selon l'INSEE, il y a pourtant en France en 2019 5,3 millions d'ouvriers classés en trois catégories, qualifiés, non qualifiés et agricoles. Il y a 40 ans, presque un emploi sur deux c'était un ouvrier et aujourd'hui c'est seulement 1 sur 5. C'est dans l'industrie que les pertes sont les plus lourdes, 1,4 million d'emplois en moins en 15 ans. Ceux qui restent connaissent les plus fréquents accidents du travail. 40% des personnes qui ont eu un accident du travail sont des ouvriers, donc presque 1 sur 2. C'est à eux qu'on s'intéresse aujourd'hui, dans l'industrie lourde en particulier, avec Pascal Pascariello, qui poursuit son enquête chez ArcelorMittal à Fos dans les Bouches-du-Rhône et à Dunkerque dans le Nord. Après avoir montré dans un épisode diffusé en juin 2018, que vous pouvez réécouter si vous l'avez manqué, qu'il y a 2 à 3 fois plus d'accidents sur les sites d'ArcelorMittal que chez ses concurrents, et qu'en 10 ans, 500 accidents mortels ont eu lieu dans cette entreprise, elle raconte aujourd'hui comment ladite entreprise s'y prend pour réduire les statistiques sur les accidents et ses cotisations à l'URSSAF pour arrêt maladie. Tout de suite, les pieds sur terre, un nouvel épisode et une rediffusion qui date de 2018. C'est parti.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans et je travaille pour un sous-traitant d'Arcelor. Je suis peintre sableur. Je travaille là-bas chez ce sous-traitant depuis 2 ans à peu près. Et j'ai travaillé plusieurs fois sur le site d'Arcelor sans être encadré par quelqu'un d'Arcelor ni de mon entreprise à moi. Non. Tant qu'il n'y avait pas d'accident, je disais trop rien. Mais bon, si je disais quelque chose, un autre allait prendre ma place et j'étais sans travail.
À 22 ans, Benoît gagne 1500 euros. En février, son entreprise de sous-traitance l'envoie travailler dans l'usine d'ArcelorMittal. Ce jour-là, sa mission consiste à débarrasser des machines qui viennent d'être utilisées.
Donc, je suis venu sur le site d'Arcelor et il m'est arrivé un accident. Donc, j'étais seul, j'étais venu pour débarrasser un chantier et j'ai perdu l'équilibre, la machine était sur moi. Et j'ai dû appeler mon supérieur avec mon téléphone car j'étais coincé en dessous. La machine qui m'est tombée dessus, c'était une sableuse de 150 kg. Je la tirais vers moi et le sol était c'était un peu de la boue, il y avait beaucoup plu la veille. Et mon pied s'est enfoncé dans le sol et j'ai perdu équilibre avec la machine qui est tombée sur moi. C'est la première, l'image c'était de plus voir mon pied en fait. Je le voyais plus, il était en dessous de la machine, je pensais que j'arrivais plus rien à bouger, je voyais plus rien du tout. Pour moi, j'étais avec une jambe de bois, après c'était terminé. Je suis resté en dessous de la machine pendant 20 minutes. 20 minutes. En criant à l'aide et au final j'ai réussi à la dégager moi-même. Je sais pas si c'est l'adrénaline ou sur le moment, mais j'ai réussi à l'enlever et j'ai rampé jusqu'à une remorque où je me suis assis dedans. Et jusqu'à temps que mon chef arrive. Qui n'a pas appelé les secours tout de suite, qui a appelé ma patronne. Et avant d'appeler les secours, ils m'ont proposé de me mettre dans sa voiture pour pas avoir d'ennui avec Arcelor. J'ai dit non. J'ai refusé. Ils ont appelé les pompiers et les pompiers ont pas pu me prendre en charge et ils ont appelé le SAMU.
Pourquoi ils ont pas pu vous prendre en charge?
Car c'était trop grave. C'était à la limite de la fracture ouverte. Donc j'étais sous morphine, rapatrié d'urgence au CHD. Du moment où je me suis dégagé de la machine, au moment que les pompiers sont arrivés, il y a eu à peu près trois quarts d'heure, une heure, en attendant d'être pris en charge.
À l'hôpital, on vous dit que vous avez quoi à votre jambe ?
Alors j'ai un déchirement osseux de l'instragale et deux fractures de la malléole. Grosso modo, elle est bien cassée, quoi. Visuellement, c'était quand même assez effrayant.
Et vous êtes resté immobilisé avec une jambe combien de temps ?
Un mois et demi. Un mois et demi de plâtre. Minimum, il y en a pour 6 mois. 15 jours après mon accident, mon employeur, qui est sous-traitant d'Arcelor, m'a recontacté pour que je reprenne en poste aménagé, pour que je sorte des stats vis-à-vis d'Arcelor, que je sois plus en accident du travail. Et est venu plusieurs fois à mon domicile aussi. C'était souvent 8 à 10 appels par semaine, et si je répondais pas, il venait deux fois par jour, midi et soir.
Mais en vous disant quoi, justement ?
Que je disais que j'étais tout seul et tout ça, que j'allais mettre des gens dehors, sans travail, à la rue. C'était quand même de ma faute s'il y avait tout ça, tous ces problèmes-là. Apparemment, il y avait une personne d'Arcelor qui les poussait, pour me pousser, moi, à reprendre en poste aménagé. C'est camoufler un accident du travail grave pour dire qu'en fait, il est pas grave, alors que si, c'était grave quand même, quoi. C'est Arcelor aussi est pénalisé s'ils ont des accidents sur leur site, comme mon employeur aussi est pénalisé. En fait, ma santé, ils s'en foutaient complètement. Au lieu de me laisser chez moi à bien reprendre, à bien me remettre de cette blessure, non, eux, c'était « tu vas revenir, comme ça, nous, on est tranquille, quoi ».
J'ai rencontré Benoît lors d'une enquête que j'ai menée pour Mediapart en juin dernier. Plusieurs ouvriers, dont Benoît, avaient attiré mon attention sur les pressions qu'ils subissaient de la part d'ArcelorMittal, leur employeur, après un accident du travail. ArcelorMittal leur demande avec insistance d'écourter leur arrêt de travail pour revenir à l'usine alors que leur médecin s'y oppose. Pourquoi ? Parce que plus l'arrêt de travail est court, moins l'employeur verse de cotisations à l'URSSAF. C'est un gain financier pour l'entreprise. Ça permet aussi d'améliorer les statistiques sur les accidents du travail et de présenter une bonne image de l'entreprise en matière de sécurité. Mais ce n'est pas sans risque pour la santé du salarié.
Après, j'ai la preuve qu'il m'harcelait par rapport aux appels et surtout par rapport à un enregistrement d'un des appels où il me disait fortement que je devais reprendre en poste aménagé.
Benoît a décidé d'enregistrer l'un des nombreux appels qu'il a reçus. Ce jour-là, c'est la responsable des ressources humaines de son entreprise, sous-traitante d'ArcelorMittal, qui lui téléphone.
C'est quoi, c'est une déchirure osseuse. Une déchirure osseuse.
C'est les tendons qui ont tiré sur l'os, en fait, et qui a arraché un petit bout, quoi.
De toute façon, t'as ton pied dans une résine, donc il peut pas t'arriver grand-chose.
Non, mais bon, enfin, j'ai souvent mal, quoi. C'est ça qui est chiant, quoi.
Tu sais, même si tu viens pas tous les jours, mais voilà, c'est plus pour nous... De sortir des stats, si tu veux, d'Arcelor. Ils nous tannent pour que ça sorte de leur statistique d'accident de travail, hein, puisque poste aménagé, ça veut dire que le salarié l'a repris. Ah bah attends, j'allais là. Comment ça se passe, chiant, pour, par exemple, si là, son médecin veut absolument pas qu'il vienne en poste aménagé. Bon. Admettons qu'on le laisse chez lui. On dit, voilà, il a accepté le poste aménagé. Il vient même pour récupérer des trucs une fois de temps en temps, ou Alex, qui habite pas loin, lui ramène des trucs à faire. Comment ça se passe? On peut le faire ou pas? Son médecin, il veut pas. D'accord. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est demander une contre-visite par la médecine du travail.
Ouais.
Et là, au niveau de la médecine du travail, si on présente le poste aménagé tel qu'il est, c'est-à-dire où tu bouges pas, tu restes au rez-de-chaussée, il y a même quelqu'un de chez nous qui peut venir te chercher et te ramener, ça ne doit pas poser de problème. Hein.
C'est pas question de ça, c'est par rapport au rétablissement, quoi.
Il y a le garçon, on est embêté, quoi. Vraiment, on est embêté. Déjà, il y a eu un accident du travail sur leur site, alors je ne te dis pas ce que ça fait. Donc, essaie de voir maintenant. Ok ?
Pas de soucis.
Voilà. Bon, ben, merci.
Au revoir.
Je me tiens au courant rapidement. Merde.
Pas de soucis, au revoir.
J'aurais jamais pensé que mon patron aurait été jusqu'à m'harceler comme ça. pour un accident alors que j'y suis pour rien, j'ai voulu faire bien. Au final, c'est moi qui me prends tout, quoi. Et surtout, je pensais pas, en allant au travail, de risquer de perdre ma jambe, en fait. Le lundi matin, quand ça s'est passé, je pensais que le lundi soir, j'allais rentrer chez moi, manger, et le lendemain, j'allais revenir travailler. Mais non, j'étais à deux doigts de perdre ma jambe et j'y pensais pas ça du tout. Encore au moins deux nuits par semaine, j'en rêve, enfin, c'est plus des cauchemars, mais je me réveille souvent avec le bruit de l'ambiance d'Arcelan, en fait, les machines qui bourdonnent dans mes oreilles, en fait. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. Je travaille plus, mon pied, il est énorme, je peux rien faire du tout, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est attendre, et c'est vraiment handicapant, même psychologiquement, c'est handicapant.
Bah, je transpire.
Hein?
Je transpire rien qu'en parler. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Je peux pas encore reprendre le travail, mais je compte plus jamais revenir ici et plus jamais refaire ce boulot-là de ma vie. C'est terminé. Je vais sûrement changer de métier complètement.
Chez ArcelorMittal, ces pratiques semblent s'être généralisées. J'ai voulu comprendre pourquoi ces contournements de la loi par des multinationales comme ArcelorMittal sont si fréquents. Un contrôleur en charge de ces questions pour les caisses d'assurance retraite et santé au travail a accepté de me répondre. Il s'agit d'Olivier Tompa, également représentant du personnel pour la CGT.
Donc plus l'entreprise a d'accidents de travail, plus ils sont longs, plus elle payera de cotisations URSSAF. Moins elle a d'accidents de travail, moins ils sont longs, moins elle payera. Donc c'est ce qu'on appelle le coût direct. Souvent dans les gros groupes, il y a des indicateurs qui sont primés pour les directeurs, des indicateurs de sécurité. Les usines affichent à l'entrée des usines tant de jours sans accident de travail. Et donc, évidemment, bah, s'il n'y a pas d'accident de travail déclaré, ces indicateurs sont au vert.
Pour que les taux d'accident restent bas et que les ouvriers reviennent rapidement travailler après leur arrêt, la stratégie des entreprises consiste souvent à leur proposer un poste de travail aménagé, c'est-à-dire adapté aux salariés accidentés le temps de sa convalescence. En soi, un poste aménagé n'est pas illégal, mais il doit être demandé par le salarié et non pas par l'employeur. Et il doit être encadré notamment par le médecin du travail.
Dans le cas des accidents de travail non déclarés ou sous-déclarés, le poste aménagé, c'est uniquement un but de camoufler l'accident de travail.
Lorsque sous la pression de l'entreprise, le salarié écourte son arrêt de travail en acceptant un poste aménagé, il compromet sa convalescence et prend des risques pour sa santé. Il peut avoir des séquelles qui peuvent être graves. Mais en ayant accepté un poste aménagé, l'accident est rendu minime, voire invisible. Et les séquelles ne peuvent plus être reconnues comme un handicap causé par le travail. Elles ne sont donc pas assumées financièrement par l'employeur, comme cela devrait être le cas, mais par la collectivité et par le salarié lui-même. Ce que je me demande, c'est pourquoi ces pratiques illégales ne sont pas condamnées.
Il y a un décret qui donne le pouvoir au directeur des caisses en charge des accidents de travail, donc au directeur des CARSAT ou de la CRAMIF, de mettre en œuvre des pouvoirs coercitifs financiers auprès des entreprises. Mais dans les faits, dans nos structures, il n'y a rien, il n'y a pas d'outils en place. Donc on fait des lettres de rappel, mais des simples lettres de rappel. Nous n'avons pas les moyens du contrôle, nous n'avons pas d'outils, il n'y a pas d'équipe dédiée. C'est une loi qui fixe des règles sans structure de contrôle derrière. Souvent, les CARSAT ont leur présidence tenue par le MEDEF, donc il existe peut-être des pressions de la part du patronat auprès des directeurs de caisse.
Peu contrôlées, les entreprises ont donc toute la liberté de continuer à menacer les salariés, évitant ainsi de verser des cotisations à l'URSSAF. À 35 ans, David subit les conséquences de ses pressions. Il travaille depuis 10 ans chez ArcelorMittal.
Donc, pour moi, c'était vraiment une fierté, un aboutissement de toutes mes années de galère de rentrer chez ArcelorMittal. Et aujourd'hui, on est bien loin de cette fierté. Mon premier accident, c'était en 2014, sur un poste de nuit. Donc normalement nous étions censés être deux embauchés en intérimaire, mais comme nous étions sous-effectif, que nous étions que deux embauchés, j'avais mon collègue qui travaillait sur une machine et moi je travaillais sur une autre machine, alors que c'était une opération qui devait se faire à deux. J'ai eu en fait le majeur du doigt qui a été donc ouvert circulairement avec l'ongle arraché. Dès le lendemain, plusieurs de mes responsables m'ont téléphoné, donc certains pour prendre plus des nouvelles et me dire de me reposer, et d'autres pour me soumettre l'idée de reprendre le travail et de pas rester dans cette situation, que c'était pas bon pour moi et qu'on pouvait m'aménager un poste, qu'on me maintiendrait mon salaire en poste en journée et que ils font venir un taxi chez vous qui vous amène et vous ramène chez vous en fait. J'ai pas trop réfléchi parce que je souhaitais reprendre vite mon activité, pas rester chez moi entre quatre murs à gamberger entre guillemets quoi. Après, j'ai eu un deuxième accident, donc en 2015, en août 2015. Tout bête, qui d'après même l'inspecteur du travail aurait pu arriver à tout le monde. Et j'ai perdu la pulpe de ma main, en fait, sur un point rentrant. Au départ, je pensais tout simplement m'être coincé le doigt. Et c'est vrai que quand j'ai retiré mon gant, ben, j'avais la pulpe du doigt arrachée, en fait, coupée, sectionnée. Donc ça s'est passé vers 10h30 du matin, et on a dû m'opérer en début d'après-midi. Donc, il y a eu une petite période où j'ai attendu. Et donc là, il vient donc l'assistant social de Charcelor, qui déjà me parlait de reprendre le travail alors que je n'étais même pas encore opéré, quoi. Donc, il y avait même ma compagne qui, d'ailleurs, a commencé à s'énerver en disant il s'est même pas fait opérer, vous parlez déjà de reprise de travail. Donc moi j'ai tranché tout de suite dans la négative en disant j'ai dit oui, je réfléchirai, mais je savais très bien que voilà, que je ne reprendrai pas le travail tout de suite et que je me ferai pas avoir une deuxième fois en fait. C'est d'autant plus décevant et d'autant plus malheureux de voir qu'en fait nous sommes juste un outil comme un autre, un outil de production comme un autre. Et après ils ont essayé hein, de m'appeler, j'ai eu plusieurs line managers hein, même qui m'ont appelé en disant on va travailler sur ça, on va travailler sur la sécurité ensemble, t'inquiète pas si tu reviens, machin. Je disais non. À la fin, même, je décrochais même plus. En fait, je disais, passez par mon responsable d'équipe. En fait, c'est mon responsable d'équipe qui faisait un peu le tampon pour que je sois tranquille et que finalement, je pète pas les plombs et que ça dégénère pas, en fait, puisque après, c'est tellement du harcèlement. Hein. C'est quand on vous appelle chez vous, que vous êtes dans une situation où vous avez mal, où vous posez des questions professionnellement, ou quand moi j'avais des objectifs de carrière et je me disais que voilà, que mes accidents allaient noircir ma carrière en fait, parce que c'est un peu ça quand on a des accidents malheureusement à Arcelor, on vous blacklist, on vous met un peu sur liste rouge. Ça fonctionne à coup de menaces, à coup de on vous dit que vous êtes quelqu'un qui voulait pas travailler. Alors que non, loin de là, quand je suis rentré à ArcelorMittal, voilà, comme je vous ai dit, c'était une fierté pour moi de rentrer dans ce groupe. Après, moi, je suis pour l'intérêt commun, on va dire.
Ça a duré combien de temps, ce harcèlement ?
Plusieurs semaines, hein. Plusieurs semaines. J'avais pour but d'avoir quand même une carrière à Arcelor. Pendant 5 ans, je n'ai pas eu d'entretien professionnel. Je n'ai pas eu d'avancement en 8 ans. Mes demandes pour aller dans d'autres services ont été court-circuitées. Donc après, c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui font que je me suis senti mis de côté, très peu écouté. Toutes ces conséquences, je les subis encore au quotidien, en fait. Ça a été très dur, parce que j'ai limite fait un burn-out.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, justement ?
Ben, c'est le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas être entendu, le sentiment de double discours, en fait. Parce que on nous fait entendre que le premier sujet de la direction, c'est la sécurité. Donc, faut savoir qu'en 2016, ArcelorMittal a lancé 2600 personnes à la formation TechCare, donc qui est un vaste projet de formation interne concernant la sécurité et justement à ce que les accidents mortels n'arrivent plus.
TechCare, en traduction anglaise, c'est...
C'est ben, la sécurité pour soi, en fait, et pour les autres. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un monde entre le terrain, la réalité auquel nous sommes confrontés chaque jour au quotidien et entre guillemets l'image que veut donner Arcelor sur la sécurité, leur vitrine quoi en fait. Il y a des jours où c'est vrai que je me sens laissé pour compte, je me sens impuissant, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer et... J'en suis tellement arrivé loin que ben, ça devient pas une fatalité, mais on essaye de relativiser autrement et de se dire que ben, on vient faire nos 8 heures de travail et on rentre à la maison. Du moment qu'on rentre entier, ben, c'est l'essentiel, quoi. Voilà.
David n'est pas le seul. Les syndicats reçoivent régulièrement des salariés harcelés en cas d'accident. Sandy Poletto, secrétaire de la CGT chez ArcelorMittal à Fos, ne compte plus les alertes.
Les grosses alertes et pour lesquelles on a des écrits, des traces écrites noir sur blanc, il y a 2011 où on retrouve une note interne qui est diffusée au manager, qui a été présentée en réunion à l'inspection du travail. Et dans la note, on précise, et c'est écrit tel quel, il n'y a pas de formalité nécessaire vis-à-vis de la CPAM, donc la Caisse d'assurance maladie. Le non-envoi de l'arrêt de travail est préférable. Donc c'est clairement une recommandation écrite. Le truc, mais c'est préférable si on n'envoie pas les arrêts de travail, c'est beaucoup mieux pour eux.
Et, attendez, et donc ça, Sandy, c'est ce que vous me lisez, c'est justement une note interne que Arcelor donnait à ses managers. Enfin...
C'est ça, voilà. C'est une note interne qui a été diffusée aux responsables des zones, des ateliers, pour qu'il y ait le moins possible d'arrêt de travail d'officiellement recensé. Voilà. Donc ça a été condamné par l'inspection du travail, c'est également dans un courrier de l'inspection du travail. Elle dit que ce genre de pratique est parfaitement illégal, ce que on a pas manqué de faire remonter à notre direction. Donc ça, c'était 2011. C'est pas pour autant que ça les a arrêtés, puisqu'en 2016, on a d'autres écrits de CHSCT, et jusqu'à il y a quelques semaines, voire quelques jours, on constate et on déplore que ces pratiques continuent, ces pratiques illégales perdurent dans l'entreprise. On sait que c'est un système qui est comme ça. C'est pas un hasard si les managers vont au domicile des gens. C'est parce qu'eux-mêmes subissent des pressions et ce sont bien des consignes. Et c'est un système qui est mis en place pour faire pression à tout niveau.
J'ai contacté ArcelorMittal afin qu'il m'explique comment il justifie de telles pressions, voire menaces, exercées sur leurs salariés. Leur chargé de communication m'a transmis leur réponse. ArcelorMittal dément les faits et ne souhaite pas les commenter. Ces pressions persistent pourtant et parfois à l'encontre de salariés qui ont frôlé la mort. C'est le cas de Laurent, 37 ans. Il travaille chez ArcelorMittal depuis 9 ans.
Donc mon accident, ça a été en février 2018. Donc j'ai dû intervenir sur des chalumeaux pour les nettoyer, sur une plateforme en fait. Et donc j'ai dû brosser les chalumeaux et en dessous de moi, il y avait le vide. Donc c'est-à-dire que j'ai dû travailler en hauteur.
Il y avait combien de vide ?
6 mètres, 7 mètres, grosso modo. Et donc la personne au-dessus a mis le gaz et moi en brossant en fait il y a eu l'étincelle, ça a fait une explosion qui m'a fait quand même rebondir de 1 mètre. Après c'était le vide de 7 mètres quoi en fait. Donc j'aurais pu tomber de 7 mètres. Donc oui, donc j'aurais pu trouver la mort.
Et rien ne vous protégeait du vide ?
Non, rien du tout. J'ai eu peur, j'ai été sonné et j'entendais plus rien quoi en fait. Avec l'explosion, il y a eu des acouphènes en continu quoi.
L'hôpital dit quoi ?
Ben que les acouphènes ça allait durer un moment, donc il fallait beaucoup de repos, beaucoup de calme. Et donc par rapport à l'audition, il y a une grosse perte. Par rapport aux aigus, je les entends pas trop, ça dépend les décibels. Donc Arcelor avait classé l'accident comme grave. Et une fois que j'ai déposé l'accident et compagnie, donc le grand chef a été au courant. Et puis dans la soirée, on a commencé à morceler pour que je ne déclare pas l'accident et que je reprenne le poste aménagé directement, quoi. Que le lendemain, j'aille travailler avec les acouphènes et ne pas faire mes soins correctement. Et moi, je lui ai dit non, en fait, à plusieurs reprises, non, non, non. Et il a fait appeler mon chef de poste, il a fait appeler le gars de la sécurité pour que je reprenne le travail, en fait. Donc j'ai subi de la pression de 4 personnes différentes. Et donc voilà, quoi, c'était du chantage. En gros, c'était du chantage, de l'harcèlement, en fait, et il n'y avait rien en retour. Pour moi, c'est un gros manque de respect, quoi, en fait. Si, comme imagine le médecin, j'ai besoin de repos, c'est la vie d'un médecin. Harceleurs, ils ne sont pas médecins. Donc, moi, j'écoute plus la vie d'un médecin que la vie d'un chef qui veut que je prenne le travail, qui a la photo de ma santé. Personnellement, j'ai ressenti de l'humiliation, parce qu'en fait, ils font rien pour la sécurité. C'est nous qu'on doit améliorer la chose et trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Mais eux, de leur côté, je pense pas qu'ils font quelque chose. C'est-à-dire que ouais, c'était déclassé comme grave, mais ils n'ont pas fait la chose pour justement mettre un garde-corps. Ils n'ont pas amélioré cette condition-là pour éviter l'accident. Et ça peut encore se reproduire, en fait, que ce soit pour moi ou n'importe qui. Donc ça peut se reproduire.
Dans ces cas-là, ils ne mettent pas à disposition un suivi aussi psychologique, parce que des accidents comme ça où on a frôlé la mort, où on a eu vraiment un gros choc, il n'y a pas de suivi
Non, il n'y a pas de suivi par rapport à ça. Il n'y a pas de suivi. Il n'y en a aucun.
J'ai l'impression que ça vous émeut d'en parler ou...
C'est ça. Ouais, parce que j'ai quand même subi un peu d'harcèlement pendant, on va dire, un mois. C'est vrai que c'est un peu chagrinant. Même beaucoup, même. Donc voilà pourquoi ça me touche d'en reparler.
Accident du travail sous pression, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de François Connat qui est diffusé pour la première fois en novembre 2018. Merci à Laurent, David, à Benoît, Sandy Poletto, José Nunez et Olivier Toupa de la CGT. La tâche de production, c'est Mélissa Fous, notre stagiaire, c'est François Bréus. Sachez que depuis la diffusion de cette émission en novembre 2018, le sous-traitant d'ArcelorMittal a proposé à Benoît un dédommagement contre son silence, sans séquelles graves sur le long terme, ni envie de se lancer dans une bataille juridique de plusieurs années lourde financièrement. Benoît a accepté ce dédommagement, il a retrouvé du travail ensuite, mais aujourd'hui, il est en arrêt maladie. Plus d'informations sur les autres personnages que nous avons évoqués et la situation, c'est sur notre site à la page des pieds sur terre, accident du travail. Dès que nous avons des nouvelles, nous les mettrons sur cette page.